maintenant entendre l'interview du rappeur aquatique Hippocampe Fou. Salut Hippo, comment vas-tu ?
Ben, je vais très bien et toi ?
Eh ben écoute, super. Là, je vais faire un petit résumé un peu de ta carrière pour te présenter aux auditeurs. Donc un résumé concis, puisque tu commences à te produire en 2010, tu sors ton premier EP Vaccin contre l'automne en 2011, puis tu vas réaliser trois albums, Aquatrip en 2013, Céleste en 2015 et Terminus en 2018. Tu te présentes comme un rappeur aquatique et on te situe souvent entre Bobby Lapointe et MC Solar. Tu adores jouer avec les mots et leur donner une tournure très aérienne. Est-ce que tu es d'accord avec cette description ou pas ?
Je suis assez d'accord. Après, c'est un peu RFI qui m'a catalogué en tant qu'héritier de Bobby Lapointe et MC Solar. Et c'est resté, ça s'est retrouvé sur le Wikipédia, je sais pas comment, qui a créé cette page et tout, c'est pas moi. J'assume totalement, après j'ai bien plus d'influence que ça, mais c'est vrai que j'aime bien, on va dire, tordre les mots dans tous les sens pour les presser jusqu'à ce que j'ai bien récupéré toutes les sonorités possibles pour ensuite les associer à d'autres mots. Mm-hmm. Et MC Solar était aussi là-dedans, et MC Solar c'est peut-être plus au niveau du timbre de voix et côté un peu doux et parfois un aspect mélancolique sur certains morceaux, je sais pas.
Peut-être même la tournure des mots et puis le vocabulaire utilisé qui est assez pointu des fois.
Ouais, bah c'est vrai qu'il était, très instruit ce Claude MC et ça fait partie des grosses influences que j'ai pu avoir dans mes débuts. IAM aussi. Et puis après, ouais, effectivement, la chanson française, donc Brassens, Brel, Barbara, j'ai pas mal écouté tout ça. Et pour le côté flow, énergie, débit rapide, etc., je suis plutôt allé puiser dans le rap américain chez Busta Rhymes notamment, qui est un peu mon rappeur préféré.
Et ce nom de Hippocampe Fou, toi, t'es venu comment ?
Par hasard, un petit peu, en fait, disons. J'avais besoin d'un pseudo parce que Sébastien Gonzalez étant mon vrai nom, c'est un peu long. Des Gonzalez, on est beaucoup. Des Sébastien Gonzalez, il y en a aussi pas mal. Donc, je me suis dit, il me faut quelque chose pour me différencier. Et en fait, c'est Hippocampe qui a surgi comme ça. Je suis parti avec ce nom-là. J'ai commencé mes premières scènes slam, mes premières collabs avec la secte phonétique, tout ça. Donc, en 2008, 2009, tout ça, je m'appelais Hippocampe. Et au moment de m'inscrire à la SACEM, en fait, il y avait apparemment déjà un groupe ou un artiste, jamais rien entendu d'Hippocampe, mais il y avait déjà un Hippocampe. Donc du coup, j'ai rajouté le fou. J'ai toujours envie de surprendre un peu l'auditeur et pas qu'on se dise, mais c'est un ouf, comment il a pensé à ça et tout. Enfin, j'aime bien ce qu'on me catégorise comme ça.
Je savais pas que c'était un autre groupe qui s'appelait Hippocampe, j'ai jamais entendu parler.
Ouais, moi non plus.
Bah, s'il nous écoute, en tout cas, bonjour à vous. Je voulais aussi te demander, ça fait combien de temps que tu fais de la musique ? Parce que je présume que t'as pas forcément commencé en même temps que ta carrière, t'as peut-être commencé peut-être aussi avant à faire de la musique.
Ben, j'ai commencé assez tard finalement parce que mon père est musicien, donc j'ai baigné dans la musique depuis tout petit, que ce soit la musique latino ou musique classique. Lui, il a une formation plutôt de conservatoire, etc. Et puis il fait de la compo aussi. Donc j'en écoutais beaucoup de la musique, mais c'était surtout le cinéma qui était ma passion. Et c'est ce que j'ai essayé d'amener dans mon écriture, c'est-à-dire beaucoup d'images et beaucoup de descriptions, toujours un univers assez marqué au niveau de l'imagerie. Donc après, ça s'est ressenti aussi dans les clips quand j'ai commencé à en faire. Et donc la musique, finalement, moi, je m'y suis vraiment intéressé en sortant du lycée, en fait, à partir de mes 18 ans. J'ai eu mon bac et j'ai commencé une fac de ciné. Et en parallèle, je faisais des morceaux avec mes amis le soir pour triper, etc. Et donc c'est là, en fait, où j'ai développé un petit peu tous mes skills et tout cet univers textuel, on va dire, qui devait sommeiller en moi depuis bien longtemps. En tout cas, pour le côté aussi rythmique, tout ce qu'il faut en fait pour faire du rap, il faut quand même un sens du rythme et avoir envie de jouer avec les mots et de bien les scander. Et donc ça, c'était en gestation pendant longtemps et quand c'est sorti, c'était un peu nul, hein, c'est pas, je veux dire, j'ai mis du temps quand même à rapper correctement, mais voilà, je suis pas le genre de mec qui a commencé à écrire ses premiers textes à 12 piges, tu vois.
Ok, donc t'avais eu un peu de temps pour laisser mûrir le projet, et quand tu t'es senti prêt, tu t'es lancé.
Ouais, c'est ça. Disons que je me suis rempli d'images et de références cinématographiques, principalement. Mm-hmm. Et après, j'ai commencé à jouer avec les mots.
D'ailleurs, tu parlais donc d'images, etc. J'avais même vu un live où t'avais quelqu'un qui faisait des mimes pendant que tu faisais aussi, toi, ton chant derrière. C'était assez stylé. J'avais beaucoup aimé ce moment.
Ouais, ça, c'était à la Cigale en 2016. Mm-hmm. J'avais invité un ombroman, c'est le nom de son métier, Philippe Beau, qui est aussi magicien. Et ombroman, en fait, c'est quelqu'un qui fait des formes avec des mains. Donc, c'est pas les ombres chinoises qui sont des ombres généralement découpées sur du papier et par un jeu de lumière, on les fait apparaître. Lui, c'est avec les mains. Et je trouvais ça tellement fantastique. J'avais déjà bossé avec lui sur d'autres projets. Et je me suis dit, ah, il faut que je le ramène à la Cigale. On va faire un truc assez stylé. Et effectivement, en fait, il m'avait envoyé une sorte de liste un peu de tout ce qu'il était capable de faire. Et j'avais écrit un texte pour que, en gros, à la fin de chaque mesure, il y ait une représentation, une image, quoi, que ce soit un animal, un personnage, Yaïti, tout ça. Enfin, il y a plein de trucs qui traînent et c'est assez bluffant. En tout cas, les gens qui l'ont vu dans la salle s'en rappellent.
Voilà, oui, j'ai
très bien de cette collab.
J'avais vu justement que les gens étaient très réactifs par rapport à ça et c'est normal parce que ça rendait super bien, en tout cas. Tu penses que c'est un truc que tu aurais envie de refaire?
Oui, oui. Après, j'aime bien surprendre les spectateurs et les auditeurs aussi. Donc, l'idée, c'est de jamais trop se répéter et de pas reproduire une formule qui a fonctionné. Sinon, ce serait trop facile. Et donc, c'est pour ça que je me prends un peu la tête à chaque fois, pour, y compris pour les clips, pour trouver à chaque fois une nouvelle forme, une nouvelle approche, un nouvel angle d'attaque, etc.
Quoi de mieux pour présenter Hippo que de s'écouter Pas le temps, morceau extrait de son dernier album Terminus, sorti en mars 2018.
Pas le temps. Pas le temps de se dépayser, pas le temps de se stabiliser, pas le temps de préparer des repas équilibrés, et pas le temps de dédramatiser. Pas le temps de jouer, pas le temps de répéter, pas le temps d'échouer, pas le temps de progresser, pas le temps de s'ennuyer, pas le temps de soupirer, pas le temps de bronzer, pas le temps de roupiller, pas le temps de prendre un bain, pas le temps de se laver les dents, pas le temps de se garer vraiment bien, pas le temps d'attendre, pas le temps d'apprendre, pas le temps d'écouter des morceaux jusqu'à la fin. Pas le temps de fêter nos annives, pas le temps d'assister aux manifs, pas le temps d'être indécis, pas le temps d'être précis, pas le temps de préparer le débrief, pas le temps d'être un peu solidaire, pas le temps pour des préliminaires, pas le temps de faire la paix, pas le temps d'aimer la terre, pas le temps de percer des mystères, pas le temps de laisser mijoter nos rêves dans la grande ours, pas le temps de vérifier nos sources, faut gagner la course, pas le temps d'être poli, pas le temps d'être incompétent, pas le temps de réfléchir au fait qu'on n'a pas le temps.
Nous n'avons pas le temps.
Pas le temps d'appeler nos parents, pas le temps d'être moins malheureux, pas le temps d'être malade, pas le temps de réparer, pas le temps de se balader au calme, pas le temps de buller, pas le temps de lire, pas le temps de rire, pas le temps de jouir, pas le temps de fuir, pas le temps de vivre.
Nous n'avons pas le temps.
C'était Hippocampe Fou, pas le temps. On reprend l'interview. Et j'avais vu dans une autre interview que tu faisais de la chanson rappée. Qu'est-ce que tu entends par là?
Bah, disons que quand j'ai commencé le rap, je disais que je faisais du slam. Parce que bon, c'était le slam, c'était un peu son heure de gloire et que qu'il y avait un côté très très à la mode et tout. Donc je me suis dit, bah je vais m'inscrire dans ce courant-là. Puis c'était aussi une manière, en tant que tu vois rappeur blanc n'ayant pas un parcours ultra compliqué, n'ayant pas grandi en banlieue, etc. Enfin, tu vois, c'était une sorte de légitimité pour moi de dire que je faisais du slam. Et puis, petit à petit, je me suis dit, non, mais en fait, c'est plus que du slam parce que il y a vraiment un côté rythmique et un côté musical. Je dis pas que le slam n'est pas musical, mais souvent le slam, enfin, normalement, dans sa définition, c'est a cappella. Et dès que tu commences à jouer avec d'autres instruments et à donner un côté ultra percussif à ce que tu dis et à glisser tes mots dans l'instru, c'est du rap. Donc je me suis dit, bon, je vais arrêter de dire que c'est du slam, c'est du rap. Et puis encore une fois, je me suis dit, ouais, mais le rap, c'est vrai que à chaque fois que je dis je fais du rap, les gens ils m'imaginent avec des grosses chaînes en or, ou tu vois, enfin, il y a une sorte de cliché qui malheureusement accompagne le rap depuis des années, qui est très bien aussi, hein. Moi j'adore le rap très stéréotypé, etc., j'en écoute beaucoup, mais j'avais envie de proposer quelque chose de différent. Et donc je me suis dit, l'appellation chanson rappée finalement me plaît bien, parce que comme je te dis, quand j'ai commencé à écrire, mes influences, je les ai puisées dans le rap et dans la chanson française. Mmh. Donc le côté chanson rappée, c'était un peu genre, voilà, je parle de sujets du quotidien et de thèmes assez larges. Donc comme tu pourrais avoir dans la chanson, tu vois. Mais je le fais en rappant. Parce que tu vois, quand tu dis aux gens je fais de la chanson, les gens ils vont dire ah ouais, mais quel type de chanson et de quoi tu parles, etc. Ils sont tout de suite plus curieux. Alors que rap, je te dis tout de suite, les gens ils disent ah ouais, tu fais du rap, d'accord, je vois, tu vois. Alors que le rap, ça a tellement de formes possibles. Et le côté chanson rappée, finalement, ouais, ça interroge un peu les gens et c'est ça qui m'intéressait, ça que j'avais envie de défendre, le côté un peu hybride de l'hippocampe aussi.
Ouais, puis ça correspond bien à ton style puisque c'est du rap, mais c'est pas aussi, comme tu pourrais le dire, virulent ou du moins attaquant. Tu vas plus poser ta voix, je pense, sur certains morceaux que d'autres.
Ouais, ça dépend vraiment des instrus et de l'énergie que j'ai envie de transmettre. Il y a des morceaux qui sont beaucoup plus agressifs ou festifs et il y a des morceaux qui sont, voilà, clairement plus posés, des petites balades, des chansonnettes, des comptines par moment. Voilà, j'essaye de pas avoir trop de limites pour finalement ne jamais m'ennuyer et j'espère ne jamais ennuyer l'auditeur, quoi. Que les gens se disent toujours « Ah, j'aurais jamais cru qu'il fasse ce genre de morceau. » Essayer de se renouveler, quoi.
Et est-ce que ça te dirait un jour d'aller dans un autre style? Et si oui, ce serait lequel?
Je sais pas vraiment. Moi, je suis en train de développer un spectacle, en fait, qui est une sorte de comédie musicale rappée avec beaucoup de projections. Et donc, le côté théâtral, finalement, m'attire pas mal parce que j'ai toujours été très pointilleux sur la mise en scène des morceaux et j'aime bien qu'un spectacle raconte une histoire, même si c'est un concert, tu vois, j'ai toujours dit que c'était un show, un spectacle, etc., et pas juste une suite de morceaux, parce que j'aime bien le côté narratif qu'on peut y apporter. Donc je dirais que c'est plus sur le côté théâtral, voire cinématographique, j'aurais envie d'aller, tu vois. Après, la musique en elle-même, je pense que le rap te permet déjà beaucoup de choses, c'est-à-dire que au moment que tu chantonnes un petit peu, que tu rappes, finalement, tu peux essayer tous les styles possibles, tu vois. Et je préfère me dire, j'amène ce côté rappé dans plein de genres musicaux possibles, parce que si t'écoutes les albums, il y a des trucs, ça va sonner je sais pas, boom bap à l'ancienne rap, ou alors grime anglais, machin, ou bon, dubstep, il y a très longtemps, j'en fais plus, mais tu vois, où ça peut être trap, ou ça peut être peut-être plus chanson, genre petite comptine, comme je te disais. Ça peut être électro aussi, house, enfin, il y a plein de BPM et de flow possibles, et je me dis que finalement le rap permet ça aussi, c'est-à-dire que c'est quelque chose qui est né de samples, tu vois, de morceaux déjà existants. Et le rap au tout début, bon bah, enfin si tu vas jusqu'au Last Poet, c'était sur de la percu. Après ça, c'est plutôt disco. Après ça va chercher dans la funk, dans des trucs de jazz avec le rap new-yorkais. Et puis après il y a des trucs genre reggae. Enfin ça peut tout être. Tu vois, Rage Against the Machine, moi ça fait partie aussi des influences que j'ai pu avoir, parce que le côté métal, tu vois, hard rock, agressif, mélangé à une voix comme ça, c'est rappé, quoi. Je trouvais ça très puissant. Et je pense que c'était des petites choses qui m'ont mis sur la voie, on va dire. Quand j'ai entendu ça, quand j'ai entendu Prodigy aussi, le groupe électro là, c'était ça. J'avais 14 piges, tout ça, et en fait, je kiffais l'énergie, le mélange un peu rock, électro, hip-hop, et je pense que c'est quelque chose qui est resté, même si j'ai encore d'autres cordes à mon arc, tu vois. Voilà, c'est un mélange de plein de choses, quoi.
De toute façon, ouais, le rap, c'est un style qui est très libre par rapport à ce que vont en faire. C'est après, tu pars juste d'une base, et après, tu le développes comme tu veux.
Exactement, exactement.
On va se faire une petite pause musicale avec Las Estrellas, sorti sur Céleste en septembre 2015.
J'ai des couronnes sur les molaires, pourtant je n'ai jamais eu la fève. Et pour éteindre le soleil, je crache de l'eau. Chaque nuit dans mon sommeil, Freddy me gratte le dos. Je mène une vie de patachon hors de mon lit. J'attrape froid, j'ai besoin d'une inhalation doublée d'un nid. N'a la joie, plus souvent qu'un ébéniste, je touche du bois. Ne boude pas, je t'aime de tout mon foie.
ne parviens pas à fabriquer d'amis avec mon imprimante 3D. Décidément désemparé, j'erre dans des salles vides. J'appelle en vain des brancardiers, car dans ma trachée aride, une bouteille à oxygène est entravée. Mon cerveau est en travaux, c'est un chantier sans fin. J'observe le monde à travers un miroir sans teint. Frissonne de plaisir quand je lis les chants de Maldoror. Allongé sur le dos d'un braqueur, je ne suis ni pour la monarchie ni contre. Écoutez du Prince, c'est du Queen dans un leaking size en pure autarcie. La bureaucratie me donne de l'urticaire. On me traite d'hypochondriaque depuis que je dors sur une civière. L'éternité des hommes est une chimère. Le néant m'effraie bien plus que l'enfer ou Lucifer. Regarde mes craintes dans cet écrin. L'écriture est mon élixir quand la nostalgie m'étreint. J'effrite, je craille, je tise le tigre et le frate. Je baille, médite, je fouille, je rate. Je trouve, je gratte, je brouille les pistes. Je braille, je triche, je craque, je traque. J'affine, j'attrape, je brille, je rappe. J'avance dans le brouillard étourdi. J'en ai brûlé des brouillons en refermant mes écoutilles. Je me tairai quand j'aurai tout dit. J'arrose la tombe de mon enfance, mais rien ne pousse si ce n'est l'oubli.
C'était Las Estrellas d'Hippocampo. On enchaîne sur l'entretien. Et je vais aussi te demander, donc, tu fais la partie chant-écriture. Qui s'occupe de la prod?
Bah, ça change un peu à chaque projet. Mm-hmm. J'ai pas une équipe, tu vois, depuis mes débuts. J'ai bossé avec plein de beatmakers ultra talentueux qui ont chacun leurs pattes. Et c'est ce que je cherche, en fait. C'est trouver des gens qui ont un univers déjà très riche. Finalement, apporter quelque chose de plus pour que ce soit une association de talents, en fait. Et après, il m'est arrivé aussi de faire les prods moi-même. Je sais pas, je dois avoir peut-être 20% de ma discographie où je suis à l'origine de l'instru. Mais la plupart du temps, je donne quand même mes pistes de base qui sonnent vraiment comme des trucs play school, quoi, tu vois, avec vraiment des sons de batterie tout pourris. Et je dis, voilà, j'aime bien cette base-là. Est-ce que tu pourrais m'en faire un truc ultra stylé? Et je bosse comme ça, ouais, de temps en temps. Après, ces dernières années, voilà, si je pars sur les derniers projets, le Terminus, le troisième album, celui-là, je l'ai fait vraiment avec un multi-instrumentiste compositeur qui a fait 10 des 12 morceaux de l'album, quoi. Donc il y en a quelques-uns où je te dis j'étais un peu à l'origine de l'instru, mais voilà, j'avais envie de quelque chose qui soit cohérent du premier morceau au dernier, chose que j'avais pas forcément sur les albums précédents ou sur les EP d'avant où c'était toujours plein de beatmakers différents et c'était dur d'avoir une cohérence musicale. Donc là également le spectacle que je prépare dont je te parlais, il y a un seul compo. Et c'est assez kiffant parce que quand t'as finalement un seul interlocuteur, bah ça te permet de pas trop t'éparpiller. Et surtout quand tu construis un album ou un spectacle, tu as quelqu'un qui a la tracklist en tête avec toi et qui va se dire ouais ça manque un peu d'un morceau un peu plus punchy. Peut-être qu'entre ce morceau et ce morceau, on pourrait rajouter un truc un peu, je sais rien, d'inspiration brésilienne. Enfin tu vois, on a en tête l'ensemble des morceaux. Alors que quand tu bosses avec plein de beatmakers différents, bah c'est toi un peu qui fais ta tambouille et l'ingé son, le réalisateur de l'album s'il y en a un. Mais voilà, avoir un seul compo, c'est assez cool quand même. Ça permet d'avoir des projets plus cohérents.
Tu penses que sur le prochain, tu vas garder ce principe d'un seul beatmaker?
Bah, pour le spectacle, c'est le cas. Mm-hmm. Comme je te dis, ça, c'est un peu le point de mire, quoi. Je sais pas exactement quand il va sortir parce que pour l'instant, on a fait simplement un petit tour de chauffe. On a fait une dizaine de représentations. Suite à ça, on a retravaillé le scénario, on a rebossé certains morceaux. Voilà, on est en train d'affiner ça. Mais voilà, on n'avait pas prévu le confinement et tout ce qui s'est passé. Donc, on avait un planning qui était défini en début d'année, qui maintenant a été pas mal chamboulé. Donc, a priori, avant ce spectacle-là, je vais peut-être sortir un EP avec des morceaux qui vont être faits un peu par la même équipe, mais qui sont dans une énergie carrément différente.
Ouais.
C'est plus moderne dans l'approche, c'est plus dans l'air du temps, alors que le spectacle et les morceaux qui sont dans ce spectacle se veulent plus intemporels et plus musique de film, un peu chanson. Enfin, on est dans une autre approche.
D'après ta discographie, tu sors un album tous les 2-3 ans. Donc là, tu parlais d'un EP. Et est-ce qu'un album, c'est quelque chose que tu as déjà planifié ou tu te laisses le temps, tu sors d'abord l'EP, le spectacle et plus tard peut-être un album?
Bah en fait le spectacle va être accompagné d'un album.
D'accord.
C'est-à-dire que c'est un voilà, c'est comme une BO de film ou une BO de spectacle puisqu'il y a quand même une douzaine je crois de chansons dans le spectacle, mais il y a aussi des morceaux instrumentaux qui sont la BO du spectacle et donc on voudrait sortir ça comme un nouvel album et on bosse ça un petit peu comme si c'était le préquel de la trilogie du cycle de l'eau. Voilà. Et d'accord. Là le EP pour l'instant, voilà, c'est quelque chose qui dans le temps s'inscrit après Terminus et puis en plus comme je te dis on est plus dans quelque chose d'actuel au niveau des prods et des flows et tout, mais je suis encore en train d'essayer de réfléchir à comment l'inscrire dans la grande histoire de la discographie d'Hippo, parce que j'aime bien être cohérent en fait dans les sorties et c'est pour ça que j'ai fait ces trois albums qui étaient voilà, qui étaient une trilogie autour du cycle de l'eau, la mer, puis le ciel, puis la terre, voire sous terre avec l'eau qui se balade.
Et tu vas reprendre ce principe de continuité trilogie sur les prochaines productions ou pas?
Bah comme je te dis, le spectacle s'inscrit dedans. Maintenant, le EP qui devrait se glisser entre Terminus et le spectacle, faut que je rattache les wagons. Mais je vais le faire. J'aime bien en fait ce qui là c'est je suis vraiment à une période où c'est encore en gestation, les morceaux sont écrits tout ça, mais c'est pas encore bien structuré. Donc quand viendra l'heure de la sortie et de la promo en rapport avec cet EP, mon discours sera bien huilé, bien rodé. Tout sera cohérent. Mais pour l'instant, je réfléchis encore. Tout va apparaître comme ça, comme par magie, tu vois.
Trop bien. Et est-ce que tu as des prévisions de sortie potentiellement ou juste peut-être à la louche, tu penses quand?
J'aime pas trop m'avancer, mais j'aimerais bien sortir l'EP avant la fin de l'année. Ce qui est sûr, c'est que dans deux semaines, il y a un premier extrait qui sort. Clippé. Je sais pas quand est diffusé ton interview, mais en tout cas, ouais, le 17 juin, il y a le premier extrait de cet EP qui sort. Qui est un morceau, je parle même pas d'Hippo, contrairement à Terminus qui était très personnel, celui-là est, se veut un peu plus festif, plus dansant, je vais pas dire plus léger parce qu'il y a quand même un fond assez satirique et il y a une forme de critique dedans, mais voilà, en tout cas c'est pas un morceau ultra introspectif comme j'ai pu faire sur l'album précédent. Quoi.
Et ça sera quoi le petit nom de l'EP?
Ah, je vais pas le dire encore parce que ça peut changer, mais j'ai déjà mon idée.
Ça marche.
Ça devrait être un des morceaux de l'EP qui représente bien, je pense, le délire que j'ai envie de défendre.
Ok, eh ben écoute, en tout cas, je suivrai ça avec beaucoup d'intérêt.
On va se faire un break avec Chasse aux sorcières, sorti sur l'album Céleste en septembre 2015.
C'était... On dit qu'elle enlève les enfants pour les manger.
Oh. En particulier les nourrissons.
Oh, quelle horreur!
En plus, elle avoue n'être attirée que par les rats.
Silence. Prenez place.
Nous vous accusons de pratiquer de sombres ablutions, de laisser cours à vos pulsions les plus démoniaques, de danser nu sous l'orage. Mais voici venu le temps des punitions, comme l'a prédit l'oracle. Vous n'êtes qu'une sorcière, une tortionnaire hors pair, noire et le sang qui coule dans vos artères. Nous allons vous étriper, crever vos yeux, purifier votre âme par le feu. Amen.
Insultez-moi à outrance si cela vous chante. Je ne crains pas la souffrance, mais ne m'inculpez pas. Ce serait fâcheux pour ces filles et leurs prétendants. Qui d'autre que moi pourrait s'occuper de leurs descendants? Si vous me jetez au bûcher, qui aidera ces filles à avorter? Qui va adopter les enfants mal formés, abandonnés? Sachez que la compassion trône sous mon toit de chaume, mais que sous les eaux, il n'y a ni fantôme ni gnome.
Cessez de faire de l'esbrouf, votre baratin ne me touchera point. Votre amour pour le malin vous étouffe. Et chaque matin, main dans la main, vous chantez au bord du gouffre, dans une odeur de soufre.
Je vous guérirai, délivré, vous me chérirez, je rirai. Quittons cette tour et l'échiquier, il y fait si frais. Fuyons sans tarder cette horde de manants, allons forniquer dans l'affreuse grotte de Satan. Ne décelez en moi que de la noirceur. Ne voyez-vous donc pas que je suis votre âme sœur?
Taisez-vous, levez-vous, vous l'inspirez que le dégoût. Il n'y a que pour Dieu que je me dévoue.
À ce propos, n'est-ce point triste que de mourir puceau? N'est-ce point sorcellerie que de marcher sur l'eau?
Blasphème, créature malsaine, c'est dans les flammes qu'aura lieu votre baptême.
Carpe diem, je profite de l'instant présent. Ceci dit, votre enfer ressemble au soleil incandescent.
Comment osez-vous prononcer de telles abjections?
Dois-je en déduire que ma clairvoyance est perçue comme une agression?
Vous êtes possédé.
J'ai le goût du risque. Vous êtes obsédé par l'amour du Christ.
Qu'on la fasse taire, qu'on la torture, qu'on la brûle ensuite.
La lumière ne jaillira jamais de l'obscurantisme. De l'obscurantisme.
C'était Chasse aux sorcières d'Hippocampe Fou. On est reparti.
Je voulais te demander, est-ce que tu aurais des conseils pour les artistes qui veulent augmenter leur visibilité ou leur notoriété ?
Ça fait longtemps que je suis dans le décor, mais je me pose aussi plein de questions, puisqu'il y a tout le temps des nouvelles plateformes qui apparaissent, le public évolue. Moi, j'essaye de garder un noyau assez fort et assez fidèle, on va dire, depuis mes débuts. Donc, il y a forcément des gens qui, au bout d'un moment... arrête de suivre, d'autres qui arrivent en cours. Je sais plus qui comparait ça à un voyage en train, tu vois, où en fait à chaque album est une station et les gens rentrent à je sais pas à quelle station, mais en tout cas à un moment ils sont dans le train et ils passent un bon moment, enfin je l'espère. Et du coup tout ce qui est communication, visibilité, tout ça, c'est des choses qui il faut tout le temps se réactualiser, se remettre à jour. J'en suis pas encore à TikTok, tu vois. Je sais que c'est la nouvelle plateforme du moment, mais je me suis pas lancé là-dedans. Pour l'instant, j'utilise surtout Instagram. Disons que c'est Instagram, il y a une sorte de proximité avec l'artiste. Facebook, ça a un côté un peu presque, pas dire dépassé, mais disons que on est déjà passé à autre chose, quoi. Donc c'est vrai que ça, moi j'utilise toujours et il y a plein de gens qui utilisent Facebook. Mais Instagram, avec ce truc de story, etc., te permet de communiquer, on va dire, assez directement avec les gens qui te suivent. Tu peux faire des petits lives. Je pense qu'il faut surtout du contenu, surtout si tu débutes. Il faut que tu sois très productif, voilà. Moi, ce que je dis souvent à des gens qui sont plus ou moins jeunes que moi, qui ont envie d'avoir plus de visibilité, je dis, il faut produire, faire beaucoup de vidéos. Aujourd'hui, on est à l'ère de la vidéo, donc ça peut être une vidéo filmée avec ton téléphone dans ta chambre, du moment que le son est pas trop dégueu. Les gens écouteront toujours. Mais voilà, après, je pense que quand t'arrives à un certain stade et t'as pas mal d'années d'ancienneté, tout ça, faut pas non plus saouler les gens, etc. Donc, je préfère ne balancer que des quand j'ai des morceaux, enfin tu vois, que des trucs qui me semblent vraiment intéressants. Et voilà, je vais pas filmer ce que j'ai bouffé à midi. Je pense que tout le monde s'en fout. Et en tout cas, moi, c'est pas ce qui m'intéresse quand je traîne sur ces plateformes. Donc, je pars du principe que ce qui ne m'intéresse pas n'intéressera pas ceux qui me suivent.
Et c'est pas un peu chronophage justement cette gestion de l'image par rapport à la productivité musicale, parce que à force de prendre en vidéo un petit peu tout ce que tu fais, est-ce que la production musicale n'est pas affectée par cela ?
Je sais pas. Je pense que quelqu'un de mon âge ou plus vieux, sachant que moi j'ai déjà 36 piges, tu vois, peut être vite dépassé parce que moi je suis pas né avec un téléphone dans la poche, etc. Et je pense que les millennials, comme on dit, ou même les générations encore plus jeunes, etc., eux, ils ont vraiment pris l'habitude de communiquer constamment dans la vie réelle et virtuellement. Ils le font plutôt bien, hein. Moi, je suis pas à cracher sur tous ces réseaux sociaux, etc., du moment que les gens sortent de chez eux un minimum. Mais c'est vrai, quand on n'a pas l'habitude de poster des trucs régulièrement, on se dit, bon, il faut absolument que tous les jours, à telle heure, je fasse ma story, machin. Bon, ça peut vite te prendre la tête. Moi, je suis père de famille et tout, et je sais qu'à une période, surtout quand j'ai des projets qui sortent, etc., j'essaie d'être beaucoup plus présent. Et franchement, ça peut créer des grosses embrouilles, tu vois. Tu dis à table, tu vois, on t'appelle. Et
attends,
c'est l'heure où faut publier. Et tu t'enfermes et t'es là et tu cherches la punchline et tu fais Et en fait, t'arrives, le repas est froid, tout le monde te fait la gueule. Non, je pense qu'il faut être raisonnable et voilà, il faut aussi préparer, anticiper et je pense faire du contenu quand t'es dans des situations de travail, d'enregistrement, quand ça s'y prête, on va dire, ça peut être pas mal. Et puis après, il faut se concentrer sur ce que t'es en train de faire, tu vois, parce que sinon t'es constamment dans ce que tu renvoies comme image de toi et ça peut finalement fausser le truc parce que je sais pas, tu vois, tu peux être dans un moment où t'as pas envie de parler, t'es pas expansif, t'es pas chaud, t'es concentré et tu te dis ouais mais c'est l'heure de ma story, il faut que j'ai l'air cool, et tu te forces et du coup c'est pas naturel, quoi, où tu crées un perso qui finalement est pas vraiment toi. Et après, quand les gens viennent te voir en concert, ils disent oh, le gars il fait la gueule et tout, il est pas comme en story. Donc je préfère être le plus fidèle possible à moi-même pour que quand les gens viennent me découvrir, me rencontrer en live et tout, qu'il n'y ait pas de mauvaise surprise, tu vois. Et pas jouer les mecs complètement délurés alors que j'ai une vie assez plan-plan, et que c'est surtout mes créations qui sont folles, mais mon quotidien, il est finalement assez banal et rien d'extraordinaire.
En fait, rester fidèle à soi-même.
C'est ça. Je pense que c'est très important, la sincérité.
Je voulais aussi te demander un autre truc. Est-ce que tu as des collabs de prévus potentiellement ?
Il y a eu pas mal de demandes là pendant le confinement, justement, comme tout le monde était chez soi, tout le monde se disait vas-y, on se fait un son, machin. Et comme le temps était figé, on était un peu dans ce truc de oui, bien sûr. Donc moi, j'ai accepté pas mal de collabs avec des artistes que j'aime beaucoup. Hein. Mais tant que c'est pas fait, je préfère rien annoncer parce qu'on sait jamais. Tu peux prendre très longtemps, ça peut tomber à l'eau, etc. Enfin bon, encore une fois, je reste prudent.
Très bien, wait and see, t'as bien raison.
Voilà, exactement.
Donc tu parlais du confinement, comment tu as vécu donc la crise du coronavirus et comment ça continue peut-être de t'affecter au niveau de tes lives annulés, ta production qu'on a peut-être pâti?
Il y a eu des reports de dates, il y a eu des changements de planning, il y a eu évidemment un chamboulement émotionnel, hein. Je pense qu'on a tous subi ça, là on est en train de se manger toutes les manifestations aux États-Unis et en France qui sont ultra marquantes. Moi, je soutiens totalement ça. Après, c'est vrai que moi, je viens de m'installer à La Rochelle, tu vois, j'étais à New York, là, j'ai changé d'air, changé de vie. J'y suis arrivé juste avant le confinement. Donc, je suis ça comme tout le monde sur mon téléphone, sur les réseaux sociaux, etc. Mais je suis pas non plus un gros activiste, etc. Donc, je fais ce que je peux faire, ce qui me semble approprié, tu vois, et j'essaye de pas faire le focus, tu vois, qui est là, ouais, on va changer le monde, machin. Alors, ce que t'as fait aujourd'hui, à part aller faire du vélo à La Rochette, tu vois ce que je veux dire? Bon, faut pas non plus jouer les super-héros quand on n'est pas forcément un. Donc, écoute, moi, j'essaye d'amener de la légèreté, voilà. Mais je suis un peu comme ça, tu vois, le genre de mec qui essaie de faire sourire quelqu'un le jour de l'enterrement de ses parents, par exemple, tu vois. Enfin, en essayant de pas brusquer, tu vois, sans aller dans le « fallait pas rigoler si tu connais ce morceau », tu vois. Sans faire la mauvaise blague, mais en tout cas, de toujours se dire « il faut rester optimiste ». Enfin, moi, je suis fabriqué comme ça, donc je reste fidèle à moi-même.
Ok, donc relativisme et légèreté.
Exactement.
Très bien. Est-ce que tu auras un petit mot pour la fin?
Je sais pas, Radio Pulse, la meilleure radio c'est sur le web? Je sais même pas, c'est publié sur le web ou c'est...
Alors, ça sera en FM et en podcast aussi.
Bah, Radio Pulse, la meilleure radio FM du millénaire.
Ça va, c'est pas trop les gars.
Ouais, non, mais les gars, ils veulent toujours un petit tag là, une petite dédicace et tout, donc dédicace,
ah bah écoute, Radio Pulse. Trop bien, bah merci bien en tout cas. C'était super cool de t'avoir pour cette interview et que tu puisses nous parler de tout ça. C'était Hippocampe Fou pour Radio Pulse. Passe une excellente journée.
Roger Pearls, thanks.
You're welcome.